Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Seize.
Bonjour chers amis, bienvenue sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, vous pouvez nous écouter sur X, vous êtes 1 million à nous écouter sur les ondes hertziennes. Eh bien, bienvenue et merci d'être là. Debout les Français, ce sera avec Isabelle Surplis, qui a fait le parti de l'Union des Droites. Elle ne ressemble pas du tout à Gérard Larcher, à aucun point de vue. Grand entretien ensuite avec Natacha Polony, qui défend la liberté d'expression, nous aussi. Et Xavier Vandir viendra en renfort. Et enfin, débattons-en avec Amélie Chély. N'oublions pas que les vrais problèmes sont à Beyrouth, mais aussi à Téhéran. Et peut-être même à Dubaï, c'est ce que tentera de démontrer Xavier Mans. Au milieu, il y aura bien sûr les chroniques de Maxime Emilien Friche, Pascal Pointu et Alexandre de Galzin. Ce sera un feu d'artifice. Et je tiens à rappeler que le 13 mars 1992, la Pravda, autrement dit la vérité, disparaissait. Mais rassurez-vous, on a toujours BFM en France. Et tout de suite, un petit mot d'actualité avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, bonjour. Ce dimanche auront lieu les élections municipales dans toute la France. Tous les citoyens français sont donc appelés à se rendre aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux et leurs maires. Encore aujourd'hui, à en croire les enquêtes d'opinion, il s'agit de l'élection mobilisant le plus de Français. Impossible de faire le tour des villes, bien entendu, mais pour résumer, le camp national vise notamment à se faire réélire au premier tour, dès dimanche donc, dans des villes qu'il a en main comme Hénin, Beaumont, Beaucaire ou Orange. Ailleurs, la droite nationale vise la conquête de Nice, Toulon, Marseille, mais aussi Calais, Cagnes-sur-Mer, Menton ou Argenton-sur-Creuse. Le premier tour devrait donner d'assez bonnes indications ce sens. Mais de l'autre côté, la gauche reste aux abois. La France insoumise veut peser suffisamment pour passer des accords locaux dans un grand nombre de grandes villes. Lyon, Marseille, Paris ou Lille. L'objectif est d'atteindre le seuil des 10% qui permet d'accéder au second tour pour forcer la main à la gauche modérée et ainsi se déradicaliser. Un piège dont il sera difficile de sortir. Enfin, dans les banlieues ou à Roubaix, pas impossible que LFI, malgré ses outrances, gagne un fort ancrage local grâce au clientélisme vomitif. Même si la drague est lourde, il se pourrait bien qu'elle paye. Enfin, le centre, complètement allié avec la droite, vise une victoire à Lyon, Bordeaux, Nantes ou Besançon. Pourtant, on parle surtout ici d'accords municipaux, d'accords d'appareil au vu de l'inexistence, du macronisme municipal.
Alice Cordier, elle, est honteusement attaquée dans tous les sens.
Oui, Alice Cordier, présidente du collectif Némésis, est sous le coup d'une cabale médiatique montée de toutes pièces par la gauche. L'affaire est mince. Des militants d'extrême-gauche ont exhumé une photo d'Alice Cordier datant d'il y a 4 ans et faisant un signe avec ses doigts. Conclusion de la gauche, elle soutient les SS. Elle répondait à cette accusation hier à notre antenne, on l'écoute.
Aujourd'hui, la France insoumise est dans une logique de faire oublier ce qu'elle a fait, à savoir embaucher des hommes qui ont tué Quentin. Donc ils essayent de trouver une cible. On est la cible de la France insoumise depuis maintenant un mois et ce qu'on subit, honnêtement Alexandre, est de l'acharnement de leur part, entre les différentes appels à nous dissoudre, les articles 40 qui sont saisis pour tout et rien, pour un geste dans un bar, on est littéralement harcelé de leur part, sans oublier le fait qu'ils mettent littéralement une cible dans le dos.
Voilà, donc un nouvel exemple de mauvaise foi formidable de la part de la gauche qui ne cherche rien d'autre que faire oublier ses crimes. La droite protège les victimes de l'insécurité et la gauche tue.
Faites donc un point sur l'Iran et le Liban désormais.
Oui, d'abord en Iran, on apprenait que le fils de l'ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, était dans le coma après une nouvelle frappe américaine qui l'aurait violemment blessé à la jambe. Le nouveau dictateur islamiste avait remplacé son père en début de semaine, mais si les têtes du régime tombent, la plupart des experts prédisent qu'il ne s'effondrera pas sans troupes au sol, ce à quoi les États-Unis se refusent. Mais c'est au Liban que les conséquences de la guerre se font le plus violemment sentir, ainsi que l'évoquait hier à notre antenne le président de SOS Chrétien d'Orient, Benjamin Blanchard. Le bilan des frappes israéliennes est de plus en plus lourd. Plus de 800 000 déplacés, soit près de 15% de la population, et plus de 650 morts. Les chiffres croissent sans cesse et le pays semble bien parti pour une nouvelle période de forte instabilité et d'occupation israélienne.
Et puis l'Union Européenne nous déçoit une nouvelle fois.
Oui, alors il faut dire qu'il y avait eu 2 ou 3 bonnes surprises en début de semaine, avec Ursula von der Leyen qui admettait une erreur européenne sur le nucléaire, quand même, et le Parlement européen qui, grâce à l'Union des droites, avait fait adopter plusieurs textes positifs pour réguler l'immigration. Malheureusement, on ne change pas une équipe qui perd. Hier, la justice européenne imposait aux pays de l'UE de fournir à leurs citoyens des papiers selon, je cite, le genre vécu. Pour faire simple, tout le monde est obligé de désormais de céder au délire progressiste, sinon pas de subvention de l'Union. Ne rigolez pas, ce sont vos impôts et votre pays. Je vais y arriver.
Ce sont vos impôts et votre pays.
Oui, je... Voilà.
Merci Alexandre. Pour ce qui est du sport, dites-nous absolument tout.
Eh bien, en ski alpinisme, méfiez-vous, car la deuxième étape de la mythique Pyramenta a été remportée par les duos William Bombardion, Xavier Gachet et Axel Gachet-Mollaret, Célia Perilla-Pesset. Grande déclaration des vainqueurs, c'était une super course.
Eh bien, on est heureux de leur avoir tendu le micro. Un peu...
Oui,
quelques mots, le temps, la pluie, le soleil.
Eh bien aujourd'hui, beaucoup de pluie, quasiment partout.
Glace.
C'est assez déprimant, mais pas de glace, non, pas encore, mais vous pourrez en acheter. Donc, à part dans le sud-est et en Occitanie et en Corse, où là pour le coup, y a du soleil, ils ont de la chance. Les températures ce matin vont de 8 degrés à Aurillac jusqu'à 15 à Ajaccio cet après-midi. 10 à Lyon, 11 à Paris, 13 à Marseille. Et nous célébrons en ce 13 mars, eh bien Saint-Rodrigue, le bienheureux Agnello et Saint-Salomon de Cordoue. Saint-Salomon de Cordoue, donc saint andalou du 9e siècle, condamné à mort pour être revenu au christianisme après y avoir renoncé. Il a surtout, en fait, malheureusement, pour mérite d'être mort en même temps que Saint-Rodrigue, sur lequel je ne vous dirai rien.
Eh bien, merci beaucoup Alexandre de Galzin. Et on va enchaîner tout de suite avec vous pour nous parler des mérites de la liberté de la presse en France et surtout de la presse subventionnée.
Ligne droite.
Alors, chers auditeurs, on a beaucoup parlé ces derniers temps à la faveur du travail de Charles Laloncle des nombreuses gabegies au sein de l'audiovisuel public. Mais il y a un autre média qui vous coûte de l'argent, chers auditeurs, et qui va continuer à vous coûter. Je vous parle évidemment du journal Libération. On a en effet appris cette semaine que le quotidien a une nouvelle fois été sauvé de la faillite par l'homme d'affaires tchèque Daniel Křetínský. Le roi du charbon, qui rappelons-le a fait fortune en bénéficiant de la flambée des cours de l'électricité au cours de la crise énergétique de 2021-2023, a décidé de sortir à nouveau le carnet tchèque pour donner un énième joli coup de pouce au quotidien et ainsi lui permettre de subsister. Après un premier prêt de 15 millions d'euros en 2022, un deuxième estimé entre 12 et 14 millions en 2023 et un troisième d'une quinzaine de millions en 2024, Daniel Křetínský a cette fois sorti le grand jeu en prêtant 17 millions d'euros supplémentaires au quotidien de gauche, connu entre autres pour sa défense active de la pédophilie dans les années 70. Au total, accrochez-vous bien, ce sont donc 60 millions d'euros en seulement 4 ans que le magnat tchèque a sorti de sa poche pour renflouer le quotidien qui titre à seulement 117 000 exemplaires par jour. Et là, nous ne parlons que des 4 dernières années. Car en réalité, voilà près de 30 ans que le quotidien est maintenu sous perfusion. Le journal a en effet été sauvé de la faillite par de grandes fortunes depuis 1994. Oui, alors d'abord Jérôme Sédou, puis par Édouard de Rothschild en 2005, Bruno Ledoux en 2012, Patrick Drahi en 2016, et donc Daniel Křetínský depuis 2022, ce dernier étant désormais quasiment perçu comme un actionnaire par les salariés du journal alors qu'il n'en possède aucune part. Alors vous pourriez vous demander, chers auditeurs, en quoi est-ce que cela vous concerne ? Eh bien tout simplement parce que Libération, non content de tourner régulièrement des sommes de toucher des sommes colossales de la part des milliardaires, curieux pour un journal de gauche, soit dit en passant, est avant tout un quotidien subventionné. Oui, parce qu'en fait, il est même parmi les plus subventionnés par l'État. Mieux encore, c'est un des rares titres de presse à avoir vu ses subventions augmenter en 2024. Comme quoi, quand on veut trouver du budget... Alors, la plupart des journaux ont dû serrer la ceinture en 2024, mais pas Libération, qui a reçu tout de même 6,6 millions d'euros. Il est désormais parmi les 5 titres de presse les plus aidés par l'État. Et à quoi sert cette aide, chers auditeurs? Et bien à cracher sur vous. Hein, c'est pas mal ça. On pourrait citer pléthore d'articles, d'exemples d'articles de propagande ou de fausses informations relayées par Libé ces derniers mois, mais nous contenterons simplement d'évoquer quelques-unes. Libération est par exemple le seul journal à n'avoir jamais évoqué pendant près de 8 mois l'affaire Cotino, ex-candidat LFI, soupçonné d'avoir dirigé un réseau pédocriminel. Il est également un de ces journaux de gauche à avoir compieusement sali la mémoire de Quentin. En décembre dernier, il est également le journal qui a osé publier un billet où Noël était définie comme la période la plus stupide et vide de l'année, c'est sympa. Un mois plus tôt, le quotidien découpait volontairement une vidéo pour faire croire qu'un salut nazi avait eu lieu lors d'un banquet du canon français. Récemment, Libération est même allé jusqu'à présenter comme victime d'un vaste coup de filet le groupe criminel des Z-Mafia. Enfin bref, on pourrait continuer cette liste à la Prévert pendant des heures, pour pas dire des années, puisque vous l'aurez compris, grâce à la générosité sans limite de certains et de l'État, eh bien, ce sont vos poches qui vont également continuer à être ponctionnées pour maintenir Libération le bec hors de l'eau.
Eh bien, merci beaucoup Alexandre de Gazan.
Ligne droite. Debout les Français.
Et Debout les Français, c'est avec Isabelle Surplis, candidate du bon sens à Saint-Chamond. Bonjour Isabelle Surpuli.
Bonjour Ligne Droite et Radio Courtoisie.
Et tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc vous vous présentez pour la deuxième fois aux élections municipales à Saint-Chamond.
Oui. Ouais, oui, je suis très fière parce qu'en fait, j'ai un souvenir ému des élections du 15 mars 2020, où le maire sortant, sous cette espèce de cocotte minute du Covid, est réélu au premier tour et la journaliste me demande alors, pas trop déçu d'avoir perdu. Et je lui réponds, la campagne de 2026 commence maintenant. Donc voilà, je suis très émue qu'on arrive maintenant à la veille du... Parce que la campagne finit ce soir à minuit.
Voilà. Alors, et vous aviez fait 13% d'ailleurs en 2020.
Oui, on a conservé les deux sièges au Rassemblement National. Donc c'était l'objectif, c'était une candidature d'implantation. Et puis maintenant, on est la candidature de la victoire parce que je repasse pas 7 ans face à une opposition qui n'a fait que mentir et piquer dans les poches des Couramio. C'est pas possible.
Alors, justement, avant qu'on en arrive à la manière dont les Couramio, donc autrement dit les habitants de Saint-Chamond, se sont fait faire les poches par la mairie sortante, revenons un tout petit peu sur votre liste. Donc ça s'appelle la liste du bon sens. Et ce bon sens, c'est le RN plus l'UDR d'Éric Ciotti plus Identité Liberté. Vous êtes une vraie liste d'Union de la Droite.
Alors on est une liste d'Union de la Droite et en fait qui va au-delà même des partis puisque on a déposé une liste en préfecture sans étiquette. Et sur ma liste, j'ai des candidats non encartés qui sont, on va dire, des primo candidats de toute leur vie. Il y a des encartés du RN, des encartés chez UDR, des encartés dans le parti de Marion Maréchal, IDL, chez un ancien LR. je ne leur dites pas, je crois qu'il ne sait pas encore qu'il a toujours sa carte. Mais, et puis des gens de tous horizons, j'ai des gens qui viennent du centre et de la gauche. Donc on a fait un grand écart à 180 degrés sur cette liste. Je suis vraiment hyper fière parce qu'on a réussi à dépasser vraiment cette dépendance des oucases politiques et des appareils, donc je vole de mes propres ailes avec des gens qui sont pleins de bon sens et j'adore.
Alors, vous les adorez, on a l'impression que les gens de Saint-Chamond sont eux-mêmes plutôt acquis à l'idée de voir une nouvelle tête. Alors, on ne vous promet pas la victoire, mais évidemment, on l'espère. Un journaliste de France Bleu vous a tout de suite posé la question qui tue, vraiment où on sent l'attachement à aller au bout de la vérité. Quand on parle d'unité cynophile, autrement dit de policiers avec des chiens municipaux, certains disent oui, mais les chiens sont muselés et on n'a pas le droit d'enlever la muselière tant qu'on n'est pas en état de légitime défense. Et on sentait que dans la manière de rentrer précisément dans le maniement de la muselière, il y avait là un doute légitime sur la manière dont véritablement une unité cynophile serait capable de régler les problèmes de Saint-Chamond.
C'est la seule question de toute la campagne, enfin, je pense en 6 ans de campagne, c'est la seule question du service public qui a été pertinente. Et donc je suis hyper contente que vous me la reposiez parce que je suis la seule candidate à être allée voir la seule, ça fait beaucoup de seule, mais c'est important.
Seule avec tous ceux qui vous accompagnent, c'est très bien.
Oui, voilà, on est allé voir la seule unité cynophile municipale de la Loire entière. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une vague idée. Saint-Étienne, ils ont une unité cynophile, mais de la police nationale. Donc on est allé les voir plusieurs fois avec mon adjoint à la sécurité et on leur a dit, voilà, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une unité cynophile? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? On était persuadés qu'un chien d'une unité cynophile pouvait renifler de la drogue. Or, c'est pas sa compétence. Et je voulais chiffrer, je voulais savoir en temps horaire, bref. Donc, on est devenu incollable. Et je sens dans la question de la journaliste que mon projet de l'unité cynophile, c'est genre un vœu pieux, un truc complètement vain. Or, on apprend qu'à Lorette, donc la commune pas loin de Saint-Chamond, la délinquance a baissé 38%. Et on apprend aussi que les trois compétences de ce chien, c'est donc la frappe muselante. Et moi, je peux vous dire que je l'ai vu et je l'ai touché, la muselière. Un type, un délinquant qui se fait allumer par un chien d'une brigade cynophile muselée, il s'étale par terre. Je veux dire, c'est ultra efficace. Après, quand vous avez fait une arme létale, vous démuselez votre chien et c'est la frappe mordante. Bon, autant vous dire que ça va devenir compliqué de continuer son délit. Et la troisième compétence, c'est ce fameux fantasme de la recherche de la drogue, mais non, c'est la recherche de la personne disparue et du présumé, du délinquant présumé en fuite. Donc, c'est hyper efficace. Et d'ailleurs, le brigadier chef de Lorette me disait, quand on sort le chien La dernière fois, exemple concret, avec un menace avec un cutter, le type a lâché le cutter, il s'est mis à genoux, il a mis les mains derrière okay. la tête, donc voilà. Très efficace. Donc,
grande influence des séries télé sur la délinquance dans la loi.
Et ce qui m'a peur devant le chien, ouais.
Voilà. Ce qui m'a fasciné dans cette question qu'on sentait quand même un peu orientée, c'est la manière dont effectivement vous parlez très naturellement et tout de suite de frappe muselante, de frappe mordante. Ouais. On sent que ces 6 ans dans l'opposition à Saint-Chamond vous ont permis en fait de creuser les dossiers et de connaître votre ville sur le bout des doigts.
En fait, oui. D'ailleurs, je dis souvent notre ville. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de passage et il y a beaucoup de Lyonnais qui viennent soit y bosser, soit déménager. En fait, j'ai voulu faire de la politique comme personne. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est vrai qu'on est dans l'opposition, on est 2 élus. Ma collègue, elle travaillait énormément. Moi, j'ai la chance d'avoir été graphiste à mon compte, mère au foyer avec un mari stéphanois absolument parfait qui m'a aidée tous les jours pendant 6 ans. Ça, c'est très, très, très important parce que c'est un peu un esprit d'équipe. J'ai aujourd'hui une grosse équipe qui m'aide. Vous voyez, je donne un exemple. J'ai eu un souci de santé pendant la campagne. Eh ben, personne l'a vu parce qu'ils ont continué à faire sur le terrain. Et surtout, j'ai voulu faire ce que personne ne fait. Donc, j'ai fait une journée avec, j'ai fait 12 heures avec les pompiers. J'ai tout fait avec eux. J'ai fait une journée comme les pompiers. J'ai demandé à visiter le centre de supervision urbain, vous savez, cette espèce de caverne où il y a toutes les caméras de vidéoprotection, parce que j'avais absolument aucune idée de comment ça fonctionnait. Et je suis d'ailleurs tombée des nues. Et le mythe de la caméra de vidéoprotection qui sauve les gens s'est effondré. Et c'est vrai que dès que je me suis dit, OK, on veut mettre une unité cynophile, ben on va aller voir les premiers qui l'ont fait. Et je veux tout savoir. Je note tout. On a des cahiers entiers. Je suis très souvenir matériel. Donc, je veux être incollable. Et d'ailleurs, on a rigolé parce que au dépens d'un de mes adversaires, parce que on lui a posé la question de... Lui, il appelle ça une brigade canine, ce qui est totalement faux sémantiquement et logistiquement. Et je lui ai dit, mais monsieur le candidat, la brigade, l'unité cynophile, donc je le reprends, municipale n'est pas faite et n'a pas la compétence d'État de renifler de la drogue et de lutter contre la drogue. Donc c'est important quand on est défié devant les Français et plus précisément les habitants d'une commune auquel on se présente pour être maire, d'être incollable. Et ça, je veux travailler là-dessus, quoi.
Alors, vous travaillez là-dessus, vous travaillez aussi sur, évidemment, l'endettement de la ville, vous travaillez sur les friches industrielles. Quels sont les véritables problèmes de Saint-Chamond ?
En fait, le principal problème de Saint-Chamond, c'est de ne pas devenir une ville dortoir. Ils détestent quand on dit des choses pareilles, mais c'est un peu vrai. On est entre, je ne sais pas si vous connaissez, mais on est entre Lyon et Saint-Étienne, deuxième plus grosse ville de la Loire, chef-lieu quand même, c'est pas n'importe quoi, 36 000 habitants avec une population qui est un peu scindée en deux. Et donc, les gens viennent habiter à Saint-Chamond parce que l'immobilier n'est pas cher et on y vit bien. On a des hauteurs comme la Chabure et Chavannes qui sont très agréables à vivre parce que on est sur des coteaux très, très, très ruraux et très sympathiques. Mais son principal problème, c'est son insécurité de la délinquance du quotidien. C'est pas du grand banditisme, c'est vraiment la délinquance du quotidien qui pourrit la vie des gens. Sa propreté, c'est-à-dire sa non-propreté, il y a quand même... je donne un exemple, j'ai fustigé le fait que la laveuse municipale ne soit pas sortie depuis 5 ans du garage municipal et ça fait 3 jours qu'il s'évertue à nettoyer les sols devant ma permanence et en centre-ville. Donc il y a quand même une grosse moquerie derrière ça et c'est pas un sentiment, hein. C'est vraiment factuel ce que je vous dis. Donc il y a cette insécurité et cette insalubrité des sols, des déjections canines qui n'a jamais été, il y a jamais eu la volonté politique derrière de le régler, parce qu'on est dans une majorité municipale sortante, bien confortablement assise dans ses sièges, et on a une sale image. Donc moi, à chaque fois que je dis je travaille à Saint-Chamond et que je suis élue à Saint-Chamond, parce que je suis aussi conseillère régionale de la Loire, les gens ont un geste de recul physique en faisant Donc il y a cette image à casser, donc en mettant un grand coup d'abord sur l'insécurité et sur la propreté, et après, effectivement, faire revenir des entreprises. Mais on est vraiment dans la spirale du vide. Il va falloir taper fort. Hein.
Alors, merci. Je rappelle que nous sommes en train de recevoir Isabelle Saint-Surplis, qui est conseillère municipale à Saint-Chamond et qui vise la municipale aux élections municipales, la mairie de Saint-Chamond. Tout à l'heure, nous recevrons dans quelques minutes Natacha Polony. Vous faites l'objet, Isabelle Surplis, comme tous les candidats de droite, d'une surveillance haineuse, vétilleuse et tatillonne de la part de l'extrême gauche qui s'acharne non pas à parler de vos idées, non pas à parler de votre programme, mais s'évertue à montrer que vous êtes un danger en puissance parce que vous n'avez pas leurs idées. Et Gérard Larcher, d'ailleurs, lui-même, a l'air de dire qu'il suffit qu'un LR fréquente un UDR ou un RN pour devenir persona non grata dans son parti. Que pensez-vous de la manière dont la campagne municipale est politisée à mort, où on explique, même à Saint-Chamond, le fait de voter pour vous, c'est ouvrir tout grand la porte au fascisme rampant?
Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plusieurs années qu'ils sont sur mes côtes et qu'ils n'ont eu qu'à sortir... En fait, moi, j'ai ricané parce que j'ai découvert que j'étais mariée avec mon mari dans cet article.
Horreur.
Voilà. Et que j'étais encartée au RN avant. C'est terrible, affreux, et que Marion Maréchal était une de mes proches. Donc, nickel, novice, soupçolé. On connaît ce genre de méthode, comme sur France 3, où on parle du Troisième Reich avant les élections présidentielles. Bon, la ficelle est grosse et moi, je suis contente parce que les gens ne tombent plus dans le panneau. Je trouve que les électeurs, notamment, hein, parce que c'est directement à eux que sont adressés ces tissus de mensonges, ces grossièretés. Et puis, en plus, ça révèle la vie privée. Je veux dire, c'est... je veux dire, nous, avec mon mari, là, on est devenus... ce que je lui disais, c'est que... On s'est fait déshabiller en 2 secondes. On est tout nu sur la place publique. Ça n'a l'air de déranger personne. Bon, le fait est que on est aux portes du pouvoir au niveau local et que ce genre de réaction, moi, me rassure parce que ça veut dire qu'on va gagner. Ils sont immensément stressés. Donc, s'ils pouvaient raconter et inventer que je mangeais des migrants au petit déjeuner, je pense qu'ils le feraient. Mais comme ils sont pas assez malins pour le faire, et qui n'ont pas forcément la technique pour le faire, ils le font pas. Mais ce que je trouve intéressant, et c'est ce que j'ai répondu à la journaliste, c'est que recevoir des leçons de morale par des types qui ont fondé Street Press, qui sont mouillés jusqu'au cou dans les affaires Epstein, dans le dossier Epstein, et qui soutiennent des types comme la Jeune Garde qui ont assassiné Quentin, bon, voilà, moi ça me rassure du fait que je suis droit dans mes bottes et que nous sommes effectivement du bon côté de la barrière, enfin du mauvais pour eux, hein, mais que nous avons raison et que le bon sens c'est nous, que la France c'est nous et que ces gens-là ne doivent évidemment pas continuer de proliférer. D'ailleurs, il faudrait leur couper leurs subventions publiques. Ça, c'est un vrai projet, un autre sujet.
Une dernière question en une minute pour les couramiaux. Voilà, votre première action une fois que vous arrivez à la mairie?
Lundi 16 mars.
Voilà, non, c'est ça, après le deuxième tour.
Lundi 23 mars, la première chose que je fais, c'est de réunir les services, en réalité, dans l'espace-temps. Hein. C'est-à-dire que la première décision politique, c'est l'audit financier qui va sortir tous les cadavres du placard. Mais la première chose humaine que je fais, c'est de réunir les services. Parce que souvent, ce qu'on fait croire quand on est un maire sortant, c'est que les opposants vont virer tout le monde. Et moi, je veux les rassurer parce que ce qui fait tourner une mairie, ce ne sont pas les élus, ce sont les agents. Nous, on en a plus de 700, donc je vais tous les rencontrer. Et après, en parallèle, parce que j'aurai un cabinet extrêmement efficace, on lance un grand audit aujourd'hui, et je suis contente de pouvoir le dire sur votre antenne, parce que personne ne veut le relayer. Aujourd'hui, suite à mes plaintes, 2 enquêtes ont été ouvertes. Une première concernant les dîners privés, puisqu'ils ont mangé pendant des lustres sur le dos des couramiaux, en tête à tête avec des grosses bouffes, je peux vous le dire. Et la deuxième, beaucoup plus grave, c'est la prise illégale d'intérêt et du favoritisme au sujet de l'achat des véhicules communaux. Voilà, ces gens ont été entendus par la police courforielle et ils se sont bien gardés de le dire aux gens, aux habitants. Donc voilà, je voudrais remettre l'église au milieu du village de Saint-Chamond parce que ce que j'ai fait, ça fonctionne. Ça va être très long, donc je demande aux habitants de Saint-Chamond de la patience comme j'ai pu en avoir. Et Dieu sait que c'est pas ma qualité première, mais... Voilà, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle Surplis et j'espère à bientôt pour parler de votre victoire ou d'autre chose.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est précisément 7h24 et 35 secondes. À 7h50, Xavier Van Lierne nous rejoindra pour continuer à parler avec Natacha Polony, qui vient de nous rejoindre et que nous recevons maintenant dans le grand entretien.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Bonjour Natacha Polony.
Bonjour.
Voilà. Merci d'être venue à notre invitation pour nous présenter le numéro 2 de L'Audace, qui censure qui. Donc L'Audace, c'est cette revue trimestrielle que vous avez lancée il y a 3-4 mois.
Mais oui, ça c'est le numéro 2. Donc le premier numéro est sorti au mois de décembre. Et là, donc depuis le mois de mars, nous avons en kiosque, en librairie, et disponible sur abonnement, cette revue qui fait 150 pages et qui se veut, on va dire, une revue pour rassembler tous ceux qui n'ont pas envie de se résigner, qui croient que la France mérite mieux. Donc nous croyons en la possibilité de redresser la France et en particulier de la redresser par la production sur le sol français. Voilà à peu près l'idée de base. Et le principe, c'est d'accueillir tous ceux qui viennent de tous horizons, mais qui se rejoignent là-dessus. Après, on peut penser différemment, on peut débattre. C'est le principe de la démocratie.
Eh bien, voilà, soyons démocrates et débattons-en. On va commencer justement par notre maître à tous, Emmanuel Macron, et la manière dont il est particulièrement attaché à la liberté d'expression, puisque qui censure qui, c'est tout l'objet du dossier de ce deuxième numéro.
Because, I mean, free speech is a pure bullshit if nobody knows how you are guided through this so-called free speech, especially when it's to be guided from one hated speech to another hated speech.
Et donc, free speech is free, is a pure bullshit. Voilà. Vous aviez commencé évidemment votre dossier bien avant que Emmanuel Macron nous livre la quintessence de sa pensée. Que pensez-vous du fait que free speech is pure bullshit et qu'il n'y a que des hatred discours on the net?
Alors, en effet, c'est pourquoi j'avais voulu faire ce dossier, justement parce que je pense que la question de la liberté d'expression et de la liberté en général et la définition que nous en donnons va être un des sujets essentiels dans les années qui viennent et qu'il faut absolument essayer de le penser à notre manière, puisque le free speech, c'est véritablement une conception américaine, fondée sur le premier amendement de la Constitution américaine. Et il faut bien comprendre que les réseaux sociaux, en fait, reproduisent une vision, une façon d'organiser l'espace public qui relève de la culture américaine. Je veux dire, les réseaux sociaux reposent sur le free speech et sur une forme de communautarisme, en créant justement des communautés. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, enfin, ce qui me semblait absolument nécessaire à expliquer aux gens, c'est cette question de savoir comment on régule l'espace public et à quel moment on bascule dans la censure. Parce que tout le problème que nous avons, et les positions d'Emmanuel Macron sont révélatrices, c'est qu'en fait, la France a été pionnière dans une forme de censure de ce nouvel espace public que sont les réseaux sociaux. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la liberté d'expression, c'est le droit de dire n'importe quoi et de se laisser aller à ses pulsions. En revanche, mon attachement à tous les principes de l'humanisme et des Lumières, donc toute la pensée européenne et en particulier française depuis le XVIe siècle, m'incite à penser qu'il faut faire confiance en l'intelligence humaine. Nous partageons la raison universelle et le principe de la démocratie, c'est ça. Ça s'appuie sur cette idée que chacun est doué de raison. Donc, le problème, ce n'est pas d'empêcher les discours qui nous déplaisent ou que nous jugeons déraisonnables, mais par l'éducation, de susciter le fait que chacun puisse user de sa raison. Or, nous avons fait l'inverse, c'est-à-dire que l'Union européenne, en s'inspirant des tentatives et des régulations pensées en France, a petit à petit mis en place une façon de censurer les discours qui semblaient déplaisants. Et moi, mon problème, c'est que les discours haineux,
DSA,
je ne sais pas ce que c'est. Voilà,
le bouclier démocratique.
Voilà, le Democracy Shield, pensé par Ursula von der Leyen. Tout ça, en fait, c'est une façon, petit à petit, de considérer que certains discours posent problème. Et on l'a vu dans différents exemples récents. Par exemple, quand on interrompt un processus démocratique en Roumanie au motif qu'il y a eu des ingérences russes. Alors d'abord, on s'aperçoit que les ingérences russes sont assez peu documentées en la matière, même s'il y en a beaucoup. Hein, la Russie fait des ingérences, comme d'autres pays d'ailleurs. Hein, justement, ce n'est pas le seul. Mais nous, nous nous focalisons tous sur les ingérences russes. Mais là, en l'occurrence, dans ce processus électoral, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce qui s'est passé. Et pour autant, on décide d'interrompre une élection parce que le potentiel vainqueur ne pense pas bien. Et je considère que c'est quand même assez problématique comme façon de voir les choses. Et vous savez, c'est assez significatif. C'est-à-dire que quand on écoute Emmanuel Macron parler, par exemple, de la régulation des réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans, ce qu'il a... peut se concevoir, un enfant n'est pas un citoyen autonome et responsable. Par définition, si on a différencié mineur et majeur, c'est parce qu'il faut protéger les enfants de ce qui peut les menacer. Mais quand Emmanuel Macron, à partir de là, vient dire « Vous comprenez, le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, en trois clics, vous êtes confrontés. » Alors, il prend l'exemple des discours islamistes, et là, c'est tout à fait légitime. Je veux dire, la loi de 1905, par exemple, est extrêmement dure contre les prêcheurs. Ce n'est pas pour rien, c'est justement pour préserver la liberté des individus. Mais juste après, il dit, et puis vous comprenez, en trois clics, vous tombez sur des propos d'extrême droite. Et là, en revanche, pardon, mais c'est une divergence politique. Et oui, so what ? Le citoyen est libre d'adhérer à des idées d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême centre. Et ce n'est pas à la puissance publique de décider qu'il y a des propos politiques qui sont déplaisants.
Alexandre de Galzin.
Oui, Natacha Polony, la France a toujours été pionnière un petit peu dans la censure. C'est-à-dire que ça fait quand même des décennies que, d'ailleurs... Même dans toute l'Europe, en fait, on est pris un petit peu comme modèle de régulation de la liberté d'expression. Et si on fait un historique, il y a évidemment un point marqueur dans les années 90 qui est la loi Guesso. Et beaucoup de gens, en fait, font remonter tout le problème des lois actuelles jusqu'à la loi Avia, etc., à cette loi Guesso qui, en fait, est un débat qui s'est poursuivi jusque dans les années, 2010 et qui est un petit peu mort depuis. C'est est-ce qu'on peut... est-ce qu'on doit faire confiance au débat pour contredire même, les mensonges historiques, même les opinions les plus condamnables, moralement, est-ce qu'on doit aussi les condamner de manière judiciaire ? On a l'impression qu'il y a donc tout cet historique, et vous, est-ce que vous pensez qu'il y a eu cette idée d'enterrer, l'intelligence et d'enterrer l'idée qu'on puisse convaincre les gens de la vérité ?
Alors, en effet, la question des lois dites mémorielles est une question extrêmement importante en la matière. Je fais partie de ceux qui considèrent que même si c'est pour des raisons tout à fait louables qu'on a pu mettre en place ces lois, elles posent problème. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas par la justice qu'on combat des idées. Ça ne marche pas. Et la meilleure preuve, si on prend la question de l'antisémitisme, c'est que la loi Guesso n'a absolument pas empêché la progression de l'antisémitisme. Je fais partie de ceux qui ont alerté assez tôt mes premiers articles en tant que jeune journaliste dans les années 2000, étaient sur la question de la montée de l'antisémitisme dans les collèges de lycée et dans les collèges et lycées de banlieue. Et à l'époque, on me traitait de raciste pour avoir alerté là-dessus. Donc je pense en effet que c'est un sujet. Mais combattre ça juridiquement, c'est mettre le doigt dans un engrenage assez problématique parce qu'en effet, on a créé une espèce de concurrence mémorielle. Donc il a fallu ensuite créer des lois pour interdire la négation des autres génocides reconnus. Il a fallu créer des lois sur l'esclavage. Et on ne sait plus où ça s'arrête. Pour ma part, je le disais, je fais confiance en la raison humaine. Ça nécessite quoi ? Ça nécessite que la puissance publique organise cela par l'éducation. Et le problème que nous avons, c'est que l'école a été systématiquement détruite. La capacité à transmettre des savoirs et à créer chez les enfants l'émergence de la logique, de la raison, de la rigueur, du sens de l'effort, tout ça a été détruit et on se contente parallèlement de réguler le discours.
Alors, on régule le discours, on y reviendra tout à l'heure, et notamment l'admirable Jean-Noël Barrot qui nous parle de l'international réactionnaire et du fait qu'il faut, je cite, un ministre de la République, mettre au pas les réseaux sociaux. On en est effectivement à une pensée française de la liberté d'expression qui est très très éloignée du free speech américain. Je voudrais revenir sur une phrase de votre éditorial, plutôt de l'article qui ouvre ce dossier, « Ni le vacarme, ni le baillon, la démocratie », excellent slogan. Aujourd'hui, la sphère du Rassemblement national, de Reconquête et des médias du groupe Bolloré a préempté l'idée de la liberté d'expression, tandis que de la gauche activisme au centrisme macronien, on s'emploie à réguler ou même à censurer au nom du respect et de la raison, bref, au nom du bien. Étonnante et dangereuse inversion. Pourquoi y a-t-il une inversion ? En quoi
Ce que je veux dire par là, c'est que traditionnellement, la gauche, en tout cas le camp qui se veut idéologiquement progressiste, dans l'histoire, dans les deux siècles qui nous ont précédés, se battait pour la liberté face à un conservatisme qui craignait l'émergence de cette liberté d'expression. Et on le voit, nous avons illustré tout ce dossier par l'ensemble des caricatures qui ont fait suite au débat sur le dessin de la poire de Charles Philippon. Vous savez, un dessin d'une poire qui ressemblait à Louis-Philippe, au roi Louis-Philippe.
Le voilà. Visage de Louis-Philippe peu à peu se transformant en poire en quatre étapes.
Voilà. Et Philippon a été condamné pour cela. Et en fait, les quatre poires, c'est une réponse à cela, puisqu'en fait, il dessine Louis-Philippe petit à petit, ressemblant de plus en plus à une poire, et c'était son plaidoyer devant les juges pour dire « Mais si vous condamnez ce dessin, vous condamnez celui d'à côté qui ressemble, et donc celui d'à côté qui ressemble encore. Donc finalement, il faut condamner tous les gens qui dessinent une poire. » Bon, il a perdu.
Il a perdu. Les juges ont dessiné, mais ils n'ont pas été sensibles à l'argument qui est excellent. Effectivement, voilà. C'est l'un des intérêts de ce dossier, c'est vous raconter cette histoire-là. Mais malgré tout...
Oui, alors je reviens sur votre question. C'est que ce qui me semble frappant aujourd'hui, c'est que je pense en effet que, alors même que historiquement, le camp qui s'intitulait la gauche, mais encore faudrait-il faire l'histoire de la droite, de la gauche et toutes ces idées-là, on n'a peut-être pas le temps ce matin, mais dans l'histoire du 19e siècle, le camp progressiste libéral se bat pour la liberté de la presse, pour la liberté d'expression. C'est donc absurde de le voir aujourd'hui s'emparer de la censure au nom du bien. Au nom de l'idée qu'il se fait du bien. Mais on le voit très bien.
C'est moins absurde une fois qu'on sait qu'ils tiennent le pouvoir et que bizarrement, une fois qu'ils détiennent le pouvoir, ils ont envie de le garder. Mais...
C'est toujours comme ça, en effet. Et je pense que c'est une des raisons. La deuxième, et qui à mon avis est sans doute la plus importante, c'est le fait que petit à petit, vous avez un réflexe moral qui a imprégné le débat politique. Et moi, ça me frappe depuis des années. J'avais écrit avec Jean-Michel Quatrepoint, journaliste qui est celui qui m'a tout appris sur les questions économiques et géopolitiques. Nous avions signé un livre, c'était en 2018, qui s'appelait « Délivrez-nous du bien » et qui était pour expliquer justement comment des minorités agissantes essayaient de faire pression sur la société pour, au nom du bien, interdire certaines pensées, certaines idées. Donc ce discours minoritariste, justement, nous montrions dans ce livre à quel point il venait de la conception même de l'espace public tel qu'il existe aux États-Unis. Et ça ne s'appelait pas encore le wokisme quand nous avons écrit ce livre, mais c'était à peu près ça. Et donc, je pense que tout le problème est qu'en réaction à cette vision très puritaine de la pensée et de l'espace public qui s'est développé dans une part de la gauche et de l'ensemble des, on va dire, de la sphère dite libérale et qui donc l'est de moins en moins, eh bien, vous avez une réaction qui consiste à défendre la liberté d'expression, sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui que le trumpisme qui a prospéré sur cette défense de la liberté d'expression n'est pas le meilleur défenseur de cette liberté d'expression. Et on voit à quel point, en général, vous avez tout à fait raison, quand on détient le pouvoir, on fait taire ceux qui pensent différemment.
Alors, le Trumpisme, effectivement, est une espèce d'accident industriel de la liberté d'expression, mais on se rend compte qu'avant que Trump ne s'empare des réseaux sociaux eux-mêmes avaient en fait rendu au peuple une liberté de parole qu'il n'avait plus. Les journaux finissent par être de moins en moins nombreux, les chaînes de télévision, évidemment, ne permettent pas un accès à tous à l'information et à la parole, et là, brusquement, n'importe qui pouvait balancer un tweet, un post Facebook, une image Instagram et devenir du jour au lendemain un compte qu'on suit, avec parfois d'ailleurs d'excellents comptes, Vanguard, avec tout ce compte qui est admirable sur de statistiques, y compris sur l'immigration, fait un travail de sourcing de l'information, comme on devrait parler, de recherche, pardon, de l'information et de mise en forme de l'information. Voilà, que les mannes de Jean Ferret m'excusent, et que ce cochon voit pouvoir sur lui une pluie d'or, je les ferai teinter tout à l'heure. Et donc, il y a dans les plateformes des réseaux sociaux une véritable démocratie, une véritable liberté d'expression, indépendamment du free speech quand même.
Alors, plusieurs points. Historiquement, quand une technologie apparaît qui permet de diffuser la parole et le savoir, et c'est le cas dans toute l'histoire humaine, vous avez un formidable élan de liberté. Je veux dire, l'invention de l'imprimerie, ça n'est rien d'autre que la possibilité de diffuser la parole et le savoir, et c'est cela qui enclenche le mouvement humaniste, puis les Lumières, donc c'est absolument formidable. Et on l'a vu également avec Internet. J'ai commencé donc comme jeune journaliste sur les questions d'éducation, je le disais, dans les années 2000. C'était assez intéressant puisque Internet naissant a permis à des professeurs dissidents de se rassembler. Mon premier article pour le journal Marianne à l'époque, donc en novembre 2002, s'intitulait « 10 mesures pour sauver l'école républicaine ». Et j'étais allée interroger notamment les professeurs qui s'étaient rassemblés dans un collectif « Sauver les lettres » et qui étaient les premiers à faire des petites expériences, comme faire passer la dictée du brevet des collèges des années 1980 à leurs élèves, pour s'apercevoir que le niveau s'était effondré. Et je me souviens qu'à l'époque, mes confrères journalistes me disaient « mais ce ne sont pas des sources fiables, il faut aller interroger la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale, les syndicats, ça ce sont des sources officielles, mais tous ces profs, là c'est pas représentatif et c'est pas vrai ». Et derrière il y avait « non, le niveau ne baisse pas ». Donc, bien entendu que ça a été un outil formidable. Et les réseaux sociaux fonctionnent de la même manière. Le problème est que les réseaux sociaux sont donc une forme de nouvelle agora, sauf qu'il faut toujours s'interroger sur la structure avant de s'interroger sur le contenu des débats. Et la structure, nous ne la maîtrisons pas. La structure, ce sont des entreprises privées de la tech américaine, créées par des gens qui ont une conception de l'espace politique qui est extrêmement problématique dans la mesure où ces gens-là ne sont pas des démocrates. Ce sont, pour le dire un peu simplement, des anarcho-capitalistes, c'est-à-dire des gens qui considèrent que leur propre réussite repose sur leur génie et qu'en termes de darwinisme, ils sont beaucoup plus légitimes que les autres puisqu'ils sont plus intelligents. Et donc, la démocratie est un vieux truc qui ne fonctionne pas. Et en fait, la structure des réseaux sociaux repose sur cette idéologie-là et sur le fait que ce sont des entreprises privées qui ont besoin de faire du fric, de faire de l'argent avec l'économie de l'attention. Donc, est-il raisonnable de déléguer notre espace public et notre espace de débat à des entreprises qui ont intérêt à manipuler par les algorithmes la diffusion des idées parce que leur but est de nous maintenir captifs le plus longtemps possible, de nous vendre de la publicité et derrière d'utiliser notre temps de cerveau humain disponible pour faire gagner beaucoup d'argent à tous ceux qui vont à la fois utiliser nos données et nous diffuser de la publicité. Bref, notre problème, et il faudrait toujours en revenir là, ce n'est pas de savoir si nous allons réguler le contenu des réseaux sociaux. Je pense que ça relève de la censure et que c'est la mauvaise manière de prendre les choses. Notre problème, c'est que nous ne sommes pas souverains. C'est que nous avons abandonné tous les outils qui nous permettent d'être libres et de décider pour nous-mêmes. La souveraineté, c'est la définition même de la démocratie, puisque c'est la capacité à décider en dernier ressort. Eh bien, toutes nos infrastructures critiques en matière de numérique dépendent des États-Unis et on commence seulement, il était temps, à se dire que peut-être cette idée que les États-Unis peuvent couper ces infrastructures critiques est un réel problème. Regardez par exemple la façon dont Microsoft a coupé l'accès à leur boîte mail à toute l'équipe du procureur au tribunal pénal international après que celui-ci a mis en place une enquête contre des dirigeants israéliens dans le cadre du conflit en Israël.
Microsoft, Visa, voilà. Amazon,
exactement, à la demande évidemment de l'administration américaine. Donc c'est pour ça devrait nous préoccuper beaucoup plus que de savoir s'il y a des propos problématiques,
haineux. Ou prétendument tels.
Voilà, mais le problème, et encore, quand on dit propos haineux et ou prétendument tels, je vous engage à lire dans notre dossier l'article de Fabrice Eppelboin, qui est un des meilleurs spécialistes de ces questions-là, et qui explique bien que la définition des propos haineux est en train de s'étendre, et qu'en fait, l'Union européenne s'organise pour bloquer des propos qui sont légaux, mais qu'on considère comme problématiques pour la vie civique et pour la démocratie.
On va y revenir avec une question d'Alexandre de Galzin dans 32 secondes, le temps que je signale évidemment que l'Union européenne a fait exprès de choisir de dépendre des États-Unis plutôt que de produire comme la Chine un écosystème digital numérique complet avec ses propres plateformes et qui du coup permettent à la Chine d'être indépendante de la souveraineté américaine. Alexandre de Galzin.
Oui, alors un de vos grands sujets, et vous en avez parlé pendant cet entretien, c'est quand même évidemment l'éducation. Vous constatiez en 2002 donc une baisse du niveau depuis 1980. On imagine ce que c'est aujourd'hui depuis 2002, d'autant que ça va souvent de plus en plus vite. Est-ce qu'un peuple qui est abruti, qui a plus d'éducation correcte, qui sait plus s'exprimer, même qui a perdu une grande partie de son vocabulaire, en fait peut vraiment justement débattre et d'une certaine façon, en fait, vous dites que vous croyez à la démocratie, que vous croyez justement à l'idée de convaincre, mais en fait vous êtes, enfin on a l'impression parfois que vous êtes un peu la seule d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de Français qui veulent un régime autoritaire par exemple, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les enquêtes d'opinion, plus de 40% des Français. On a l'impression que l'idée de censurer l'adversaire, d'ailleurs, ne pose pas tant de problèmes que ça, moralement, aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu la dernière, justement, dans votre bunker à défendre toutes ces idées-là, alors que le reste du peuple, finalement, à la fois s'abrutit et à la fois ne croit plus à tout ça?
Alors, premier point. Si on résume la pensée
vous
de Condorcet...
Vous n'êtes pas seul, Natacha, on est avec vous.
Évidemment, je ne suis pas seul. Premier point, en 1791, Condorcet écrit les 5 mémoires sur l'instruction publique dans lesquelles il explique pourquoi la puissance publique doit l'instruction au peuple. En gros, c'est parce que, justement, sans un peuple éduqué, la démocratie, c'est la tyrannie des imbéciles. Donc, il faut faire en sorte que chaque futur citoyen soit souverain pour lui-même, c'est-à-dire ne dépende pas d'autrui pour son jugement. Ça ne veut pas dire que nous serons spécialistes de tout, mais si nous avons le minimum des savoirs universels et de la logique et de la raison qui nous permet de penser, alors nous savons déterminer, en entendant des discours d'experts, lequel nous semble le plus correspondre davantage à ce que nous voulons.
C'est qui en délègue son autorité.
Et le problème, ce sont les discours que j'entends depuis des années, qu'on peut appeler en termes savants l'épistocratie, c'est-à-dire le pouvoir des sachants. C'est cette idée qui consiste à dire « Non, mais les problèmes sont beaucoup trop compliqués, on ne peut pas les laisser aux gens, ils ne maîtrisent pas ça. Voilà. » Et ça permet de se détourner petit à petit de la démocratie, hein, au nom du fait que tout ça est trop compliqué pour ces abrutis que sont les citoyens. Bah, je crois que c'est justement l'inverse, c'est-à-dire qu'en effet, j'alerte sur la baisse du niveau, sur la dégradation de l'école. Pour autant, je n'ai pas trouvé de système meilleur que la démocratie, de système qui réponde mieux à l'idée que je me fais d'un être humain. C'est-à-dire que pour ma part, je considère que ce n'est pas parce que j'ai une agrégation de lettres et Sciences Po que ma voix vaut plus que celle d'une aide-soignante. Pourquoi ? Parce que j'ai un vieux fond, non pas marxiste, mais je considère quand même qu'il y a un principe de classe et que nous avons tendance, malgré tout et malgré notre bonne volonté, à petit à petit faire prévaloir dans notre pensée nos intérêts de classe. Et donc, si on donne le pouvoir à ceux qui sont les plus diplômés, etc., ils vont petit à petit défendre leurs intérêts de classe, et c'est ce que nous voyons, au détriment des gens qui sont ailleurs, qu'on ne regarde pas, qui sont dans des territoires qu'on oublie. Et ça, c'est absolument inadmissible. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas défendre les intérêts des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément voix au chapitre. Or, nous sommes dans un pays qui, à force d'avoir détruit l'école, a petit à petit détruit l'ascenseur social. Donc les élites ne se renouvellent pas et nous sommes en train de crever de tout cela. Et ça, je crois que je ne suis pas du tout la seule à le penser. Pourquoi ? Parce que quand on fait dire aux gens qu'ils veulent un régime autoritaire en posant des questions très très précises dans des sondages, on peut faire dire beaucoup de choses hein, aux gens à travers des sondages. Mais en fait, qu'expriment les Français ? Ils expriment le fait qu'ils veulent de la volonté politique. Pourquoi ils demandent une personne autoritaire ? Ce qu'ils veulent, et on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis avec le Trumpisme, c'est exactement la même chose. Ils veulent quelqu'un qui fait, qui se retrousse les manches et qui fait ce qu'il dit et qui ne vient pas dire « Non mais je ne peux pas parce qu'il y a la Cour pénale internationale, la Cour de justice de l'Union européenne, la CEDH, le Conseil d'État, etc. qui bloquent. Donc vous avez voté pour cette politique-là, mais je suis désolée, on ne va pas l'appliquer. » Or ça, cette dérive-là, nous la voyons depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on a mis en place des instances qui petit à petit encadrent la souveraineté du peuple. Or, la souveraineté du peuple, c'est la démocratie. Je veux dire, lisez la Constitution de la Ve République. C'est pas fasciste, la Constitution de la Ve République.
Oh, ça a été fait par De Gaulle.
Oui, titre 1 de la souveraineté. Voilà. Donc la souveraineté, ça n'est pas un gros mot. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par la voix de ses représentants et par le biais du référendum. Voilà. Donc ça signifie quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie sans l'expression de la volonté du peuple. Or, on essaye de la contourner systématiquement. Donc tant qu'on contourne la démocratie, en effet, les gens petit à petit se disent bah, « ça ne marche pas ». Mais il suffit d'être démocrate, ça marche mieux.
Alors, il y a plusieurs manières pour faire en sorte que ça marche mieux. Par exemple, avoir des espaces de libre expression comme Radio Courtoisie ou lire d'excellentes revues comme l'Audace. On va quand même parler d'abord de notre paroisse. Comment faire pour que Radio Courtoisie soit cet espace de démocratie et de liberté d'expression ?
Eh bien, il est primordial de nous soutenir financièrement pour commencer en nous faisant des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et en envoyant vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Eh bien, merci beaucoup Arnaud, et j'en profite pour accueillir, non, gardez vos écouteurs, sinon vous n'entendrez pas Xavier, pour accueillir Xavier Van Lier, de journaliste à Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Alors, bonjour Xavier, nous avons commencé évidemment à explorer le passionnant dossier de l'Audace, la revue lancée par Natacha Polony en décembre 2025. C'est le deuxième numéro paru début mars, le troisième est déjà annoncé pour début juin.
Exactement,
on le voit juin. À la fin. Voilà, on en profite d'ailleurs pour lire un très bon papier de Samuel Piquet, juste avant le bulletin d'abonnement. Il y a dans votre éditorial donc non seulement cette phrase dont on a un peu parlé sur l'inversion, mais il y a une autre phrase qui il y a plein de phrases en fait.
Oui, de fait.
Tout à fait intéressante.
C'est curieux ce besoin chez marrant de faire des phrases.
Ursula von der Leyen annonce un bouclier démocratique alors même qu'elle se garde de toute politique de souveraineté industrielle et numérique, on l'a un peu abordé, pour protéger l'Union européenne de l'impérialisme de plus en plus agressif des États-Unis. On peut se demander s'il n'y a pas une confusion volontaire entre lutte contre les ingérences et muselage des opinions divergentes, avec pour résultat, une fois de plus, de paver la route des extrêmes droites. Qu'en pensez-vous, Xavier Van Gleerde ?
Écoutez, je voudrais d'abord réagir à ce que j'ai entendu précédemment, c'est-à-dire au développement de Natacha Polony sur l'univers mental post-démocratique et même, à mon avis, post-politique des élites dirigeantes. Et je trouve que dans ce débat sur les réseaux sociaux, il y aurait une erreur à faire, c'est de regarder dans la direction où les gens qui souhaitent les réguler nous demandent de regarder. C'est-à-dire de se contenter d'évaluer la qualité des débats qui sont sur les réseaux sociaux, alors que c'est aussi une magnifique occasion, à mon avis, d'évaluer les élites elles-mêmes, d'évaluer ceux qui pointent les réseaux sociaux, d'évaluer leur légitimité à pointer la délibération démocratique ou délibération politique. Moi, je trouve que c'est extrêmement révélateur, en réalité, j'espère que vous n'en avez pas parlé avant, mais de la mutation des élites dirigeantes. J'ai l'impression qu'on est confronté à des gens qui sont dans un univers qui n'est plus politique, mais qui est en réalité techno-managérial. Et de ce point de vue, d'ailleurs, le macronisme, c'était une sorte d'apothéose, hein, parce que, bon, on peut rappeler, pour moi, c'est un dévoilement, le macronisme, dévoilement de quelque chose qui était déjà là précédemment. Rappelons, hein, la volonté de s'inscrire par-delà les partis. Les partis, c'est quand même un des instruments de la délibération politique. Aussi par la façon dont il a recruté ses premiers députés sur CV dans la dite société civile, c'est-à-dire en réalité parmi des élites managériales. Mais encore par son goût des instances qui court-circuitent le Parlement, autre lieu de délibération. Mais encore par sa manie des conventions prétendument citoyennes, mais qui ressemblaient quand même furieusement à des sortes de séminaires d'entreprise où seul lui-même et quelques experts avaient la parole. Et donc, je me demande si en fait ce débat-là n'est pas le moment où apparaît le fait qu'effectivement nos élites sont passées dans un autre mode de gouvernance. D'ailleurs, vous avez remarqué que gouvernance, c'est quand même un terme aussi qui est issu du monde de l'entreprise. On n'est plus dans le gouvernement des hommes, on est dans la gouvernance. Et la gouvernance, ça consiste plutôt à appliquer des normes, à faire primer la norme sur la parole citoyenne, et vous en avez parlé, des experts. Mais c'est au-delà des diplômes, je pense que c'est au-delà des diplômes qu'évoquait Natasha Chapolony, à la limite que des gens qui ont réellement plus de connaissances puissent voir leur parole avoir un écho plus important dans la société. Pourquoi pas, à la limite? Pourquoi pas? Il y aura peut-être presque une correspondance avec un idéal qui est encore peu ou prou celui du 18e. Mais là, on n'est plus dans ce cadre-là. C'est-à-dire que les gens dont la parole est autorisée ne sont pas spécialement des gens qui ont plus de connaissances, mais des gens qui ont plus de conformité avec le projet, car l'univers mental du monde techno-managérial, ce n'est pas tant la connaissance que la norme et la conformité. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. C'est un univers, en quelque sorte, où la délibération, la libre parole est vue comme un dysfonctionnement, quelque chose qui va faire bugger le programme et le projet. Je pense que l'univers, c'est celui, en quelque sorte, de la conduite du changement, pour reprendre une discipline qui leur est propre. Et justement, dans toute une première phase, lorsque les réseaux sociaux étaient encadrés par des gens qui étaient leurs alliés, on a vu que ça ne les dérangeait pas. Parce qu'ils étaient envisagés comme une façon de conduire les peuples dans la direction, c'était notamment le cas lors des révolutions arabes, où on allait pouvoir encadrer la direction prise par cette grande agora. Depuis, ce n'est plus encadré. Il y a eu un certain nombre de... Enfin, par nature, ces réseaux sociaux, en réalité, permettent une expression peu maîtrisée. Et donc, je pense que ces deux univers entrent en collision. Il y a l'ensemble des institutions qui avaient été mises en place pour brider la parole populaire, pour encadrer cette parole, explose à cause des réseaux sociaux. Et donc, je pense que voilà, plutôt que de simplement évaluer les réseaux sociaux, il faudrait évaluer les évaluateurs, en quelque sorte. C'est d'ailleurs comme ça qu'il faut traiter les managers en entreprise. Il faut évaluer les managers plutôt que de se laisser évaluer perpétuellement par eux. Voilà la réflexion que je voulais
faire. Et réflexion tout à fait pertinente. Alors, je le dirais peut-être en termes presque plus économiques. C'est-à-dire que j'inscris ce débat sur la régulation des réseaux sociaux dans un débat plus fondamental, c'est ce que j'esquissais tout à l'heure, sur le contournement de toutes les instances démocratiques progressivement par un système économique qui a intérêt à se débarrasser de cet élément gênant qu'est le peuple. Et ça, ça s'est mis en place dans les années 1970. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit évidemment émerger à la fois à travers l'OMC, à travers l'acte unique européen dans les années 1980, tous les outils qui permettent petit à petit de priver le peuple de sa souveraineté. Pourquoi ? Il faut bien comprendre qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les sociétés européennes se structurent autour de l'idée que plus jamais ça. Et que donc on va apporter au capitalisme des régulations qui vont empêcher ce qui a provoqué la crise des années 30. On est dans une vision qui repose sur le programme du Conseil national de la résistance en France et plus largement dans l'ensemble du monde occidental sur l'idée qu'il y a des protections sociales, qu'il y a, on va dire, non pas le libre-échange, mais la régulation des grands monopoles et tout ça. Et ça, ça ennuie terriblement les grands intérêts qui aspirent à se constituer en monopole. Dans les années 1970, en 1971 pour être précise, les États-Unis se retrouvent dans une situation compliquée. Leur économie va mal. Pourquoi ? Parce qu'il faut payer la guerre du Vietnam, parce qu'il faut payer la course aux étoiles. Et donc, ils décident de sortir de ces régulations financières, de, notamment la conférence de Bretton Woods de 1944. Donc, unilatéralement, il décide de décorréler le dollar et l'or. La conséquence de cela, c'est la naissance de l'ingénierie financière, de l'industrie financière, c'est-à-dire le découplage de l'économie réelle et de la finance. Et cette, la conséquence immédiate, c'est, à travers l'avènement de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, la mise en place de ces outils de dérégulation de l'économie, le mythe du grand marché mondial qui ne sera régulé donc que par la norme, en effet. Et donc, on est dans cette phase où on va petit à petit permettre la division mondiale du travail pour le plus grand bonheur des multinationales. Tout cela se met en place donc dans les années 1980-1990. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on appelait la troisième gauche qui a amplifier cette dérégulation, Tony Blair, Bill Clinton, etc.
Bah, Laurent Fabius, le marché à terme des instruments financiers, c'est quand même une des inventions du premier septennat Mitterrand.
Voilà, et ensuite ça s'est poursuivi sous Lionel Jospin, qui a été le premier ministre qui a le plus libéralisé. Bon. Et l'Union européenne devient d'ailleurs le poste avancé de ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire cette idéologie fondée sur le dogme du libre-échange absolu et de la dérégulation, avec ce paradoxe d'ailleurs, c'est qu'on a une inflation administrative pour permettre le règne de la norme, du droit et du marché. Et tout cela, nous arrivons au bout de ce système, en fait. Pourquoi nous arrivons au bout ? Parce que ce système a consisté à contourner systématiquement la volonté des peuples. Quand je parlais tout à l'heure du droit, de la CEDH, de la Cour de justice de l'Union européenne, le droit a permis de dire aux populations, ben par exemple, vous trouvez qu'un prêcheur islamiste d'origine nord-africaine doit être envoyé dans son pays, eh bien vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui vous dit « Ah ben non, vous ne pouvez pas parce qu'il a droit à une vie familiale stable ». Voilà, c'est ça le droit, on contourne toutes les demandes des citoyens qui s'exprime à travers le vote. Donc évidemment que le vote ne sert plus à rien. Le vote, petit à petit, est vidé de sa substance. Et donc, au fur et à mesure, vous avez des gens qui se détachent de la démocratie. Donc on voit l'abstention qui enfle. Et d'ailleurs, on peut remarquer que ce sont toujours les plus pauvres qui s'abstiennent au départ, parce que justement, c'est eux, ils n'ont que la politique. La politique, la définition, c'est changer la vie. Et là, ils s'aperçoivent que ça ne change plus la vie de voter. Donc, ils arrêtent, ils font sécession. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en la démocratie. Ça veut dire qu'ils ont compris que là, en revanche, ça ne changeait plus rien. Et puis, on a rétabli une espèce de suffrage censitaire. Et je suis bien d'accord, ce sont des élites managériales. C'est-à-dire, on a cette reproduction d'un même monde qui en fait, concentre les gagnants de ce système. Mais les perdants, eux, ils n'ont plus voix au chapitre. Et alors, ce qui est frappant, c'est que cette division en classe sociale recoupe une division géographique. Puisque nous sommes dans un système, en particulier en France, où la désindustrialisation a amplifié le poids des métropoles, en gros, les emplois de service se trouvent majoritairement dans les métropoles, alors que l'industrie, elle s'installe au contraire en dehors des grandes villes. Nous avons détruit notre industrie et nous nous retrouvons avec des métropoles hypertrophiées et des territoires entiers qui sont voués à la désertification. Et on peut faire l'histoire des villes moyennes françaises. Systématiquement, vous regardez, l'entreprise principale qui irriguait le pays disparaît. Derrière, vous avez les petits commerces qui ferment. Derrière, vous avez le centre-ville qui se vide, donc des problèmes d'insécurité. Vous avez les jeunes qui partent chercher du travail ailleurs, donc une baisse démographique. Et là, vous avez l'État qui vous dit « on va fermer l'hôpital, puis on va fermer le tribunal, puis derrière, c'est même les boîtes aux lettres qu'on supprime ». C'est ça l'histoire de la France des 40 dernières années. Et ça, c'est le résultat à la fois de ce phénomène mondial qui est le néolibéralisme et en effet le règne de ces classes managériales qui sont les gagnantes du système, et c'est le résultat spécifique de l'aveuglement des élites économiques et politiques françaises qui ont considéré que l'industrie, ça ne servait à rien, puisque de toute façon, comme on dépasse les États-nations, on ne voit pas pourquoi il faudrait être souverain et produire nous-mêmes. Hein, ça, c'est vrai que je veux dire, produire des respirateurs, bon, c'est pas grave de ne pas le faire quand il y a une épidémie mondiale, on l'a tous constaté, mais on fait la même chose d'ailleurs avec l'agriculture que ce qu'on fait avec l'industrie. C'est-à-dire que là, on est en train d'éradiquer les paysans français, et puis dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand il faudra nourrir la population mondiale et qu'il y aura une crise alimentaire, on s'apercevra que nous, on n'a plus de quoi produire et qu'on est dépendant sur à peu près tout. Je veux dire, on reproduit le même mécanisme à chaque fois. Et donc, je pense que, en fait, tous ces problèmes sont imbriqués. C'est-à-dire que la question démocratique, la question de la liberté d'expression, en fait, elle est liée à la réflexion sur le système économique. Parce que la souveraineté, ce principe démocratique fondamental, eh bien, ça doit s'appuyer sur des éléments concrets. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus les outils concrets de votre souveraineté, quand vous avez une énergie trop chère, quand vous n'avez plus d'armée, quand vous n'avez plus d'agriculture, quand vous n'avez plus d'industrie, ben vous n'êtes pas souverain. Après, vous pouvez vouloir, enfin, le peuple peut demander tout ce qu'il veut. On n'a plus les capacités, tout simplement, de répondre à cette souveraineté du peuple.
Alors, merci pour cette réponse. D'abord, merci pour la question très longue de Xavier. Merci pour votre réponse très longue. Juste avant de redonner la parole à Xavier, une question. Effectivement, il y a un saint-simonisme d'État et Emmanuel Macron, dans Révolution et l'ensemble des ouvrages, montre à quel point il est pour ce gouvernement des experts, à quel point il est contre la nation. Et justement, c'est ce mot de nation qui n'existe pas. On dit peuple, on dit démocratie, on dit mondialisation. Le rempart que cherche le peuple, c'est le rempart de la nation. C'est le rempart de son territoire, c'est le rempart de sa langue. Et on sent bien que le problème de la liberté d'expression, quand on vise les idées d'extrême droite, en fait, on vise ceux qui expliquent, attention, je vis quelque part, j'appartiens à une commune, j'appartiens à une province, j'appartiens à un pays, et c'est ce pays-là en fait qui est haï par les élites, y compris les élites mondialisées. C'est le pays que le grand capital international ne veut pas voir exister.
Vous savez, moi je viens d'un courant idéologique qui est, on va dire, au croisement de la gauche républicaine et du gaullisme social, c'est-à-dire Philippe Séguin, Jean-Pierre Chevènement. C'est-à-dire justement des gens qui... à droite et à gauche, ont considéré que les États-nations n'étaient pas morts et que en fait, le lieu d'expression de la démocratie, le lieu d'organisation de la démocratie, ça reste l'État-nation pour des raisons historiques, parce que vous n'avez pas de démocratie quand vous n'avez pas de peuple, en effet, et que le peuple, il s'exprime dans le cadre d'une nation, c'est-à-dire du croisement entre une histoire et une volonté politique. Je crois tout à fait à la définition de la nation par Ernest Renan, qui définissait d'ailleurs la nation française en opposition avec la vision allemande de la nation. Et il expliquait que la nation française, c'est pas une nation ethnique, c'est pas une nation même linguistique, ça, il faut s'en souvenir. Non, il appelait ça alors un plébiscite de chaque jour, c'est-à-dire une dimension de volonté politique, mais il ajoutait, on l'oublie toujours, appuyer sur un legs de souvenirs communs.
Voilà,
ça, c'est très
historique.
Important, la dimension historique, la dimension culturelle, parce qu'en fait, ce legs de souvenirs, il se traduit aussi par la littérature, par les arts, par la pensée. Le problème, c'est quand vous avez des populations qui arrivent, il faut bien leur transmettre ce legs de souvenirs, sinon... En effet, à aucun moment vous ne les intégrez à ce récit national pour faire en sorte de former cette communauté politique. Et c'est ça que nous avons fait. Nous avons détruit toute capacité à perpétuer une communauté politique. Donc on a un éclatement en individualité et en communauté. Et donc là aussi, ça détruit petit à petit la possibilité même de la démocratie.
Xavier Vandelier.
Oui, j'étais frappé, c'est fascinant, on parle des réseaux sociaux et on en vient à parler des modifications de l'aménagement du territoire, du destin des villes moyennes et de la façon effectivement assez frappante dont les élites se sont retrouvées finalement repliées dans des métropoles mondialisées et ont déserté ces campagnes à mesure que progressait la désindustrialisation, puisqu'effectivement, lorsqu'il y avait des usines, eh bien, il y avait aussi des managers dans les villes moyennes et ils étaient bien forcés de cohabiter, de vivre dans un lieu commun avec simplement leurs ouvriers, par exemple. Alors que, bien évidemment, dans un modèle capitalistique où il n'y a plus que des flux immatériels, on peut tout à fait s'extraire de ce monde sensible et pesant que celui de la production. Donc on se retrouve effectivement avec ces élites qui ont fait sécession dans dans les métropoles. Et là aussi, les réseaux sociaux, je trouve, donnent une clé de lecture de cette nouvelle attitude où des élites qui est celle, en réalité, d'une mise à distance. C'est-à-dire qu'on peut interpréter l'évolution de ces élites managériales comme une permanente volonté de mise à distance du peuple. Et dans les réseaux sociaux, par exemple, tel celui de Twitter, il était assez amusant de constater que les habitués... Twitter était plutôt le réseau des journalistes, des managers, des dirigeants, bref, des classes dirigeantes du pays ou des pays. Et à partir du moment où, dans l'élan post-gilet jaune, tout un certain nombre de gens qui n'appartiennent pas à cette caste-là investissent Twitter, eh bien, il y a une pulsion de voir, mais faites-les taire, qu'est-ce qu'ils racontent? Nous ne sommes plus entre nous. Ce qui les embarrassait, c'était de ne plus être entre eux, et c'était symptomatique, cette façon dont ils ont voulu en migrer, partir. C'est-à-dire que dès lors qu'il y avait des déplorables qui avaient investi le réseau social, il fallait qu'ils en créent un autre. Vous vous souvenez de ce moment où tous ont dit, on ne restera pas sur Twitter, vraiment, c'est populiste ici, c'est pas bon, il y a trop de fake news, donc on va partir pour rétablir cet entre-soi dans un autre réseau social. Donc voilà, je voudrais vous faire agir sur cette idée que les élites sont prises d'une pulsion de mise à distance.
Alors, deux points. D'abord, entendons-nous bien, pour ma part, je déplore quand même qu'il y ait sur les réseaux sociaux un règne de la pulsion, de l'agressivité. Simplement, il n'est pas uniquement le fait, justement, de ce que Hillary Clinton appelait les déplorables. Voilà, ce règne de la pulsion, il est, hélas, provoqué par le mécanisme même des réseaux sociaux dans une société qui est organisée autour du capitalisme consumériste. C'est-à-dire, c'est tout le paradoxe. Depuis tout à l'heure, nous parlons de l'importance de la raison et la façon dont la démocratie s'appuie sur cet idéal de raison universelle. Mais quand vous êtes dans une société dont la mécanique économique fonctionne sur le fait de déclencher des pulsions d'achat chez les gens, de toute façon, vous n'avez pas intérêt à ce que les individus soient des citoyens et utilisent leur raison, puisque votre intérêt, c'est de les manipuler en provoquant leurs pulsions. Donc, nous sommes face à ce paradoxe-là qui n'est jamais abordé. Ça, c'est le premier point, mais en tout cas, le déferlement des pulsions sur les réseaux sociaux reste un problème. Simplement, je pense qu'on ne le règle pas par la censure. Deuxième chose, il y a toujours eu une tentation des élites, quelles qu'elles soient, de pratiquer l'entre-soi. Bien sûr, c'est un phénomène humain, c'est une reconstitution permanente des privilèges. Ça nécessite, j'allais dire, en permanence de faire tomber les Bastilles, c'est-à-dire d'en revenir à cet idéal de 1789 qui est de sortir d'une société d'ordre et de se dire que quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre naissance, nous sommes tous égaux. Et donc, en effet, ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, mais dans tous les phénomènes d'organisation de la société, c'est la tentation de la sécession des élites. Le problème, c'est quand l'organisation économique, puis finalement l'ensemble des structures institutionnelles favorisent cette sécession. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Donc il faut de nouveau lutter contre toutes les formes d'oligarchie. Et ça nécessite de revenir à cette définition de base. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Vous savez, moi, je passe mon temps à débattre avec des gens dont je m'aperçois qu'au fond d'eux, ils ne sont pas démocrates. Oui, vous citiez justement ce terme de déplorable qu'avait utilisé Hillary Clinton contre les électeurs de Donald Trump. Mais souvenez-vous du délire idéologique qui a émergé au moment de l'élection de Donald Trump, au moment du débat sur le Brexit, au moment des Gilets jaunes. Moi, je n'ai jamais vu autant de mépris de classe qu'au moment de l'émergence des Gilets jaunes. C'était d'une violence absolument incroyable contre des simples gens qui voulaient vivre dignement de leur travail, parce que c'est ça, au départ, le mouvement des Gilets jaunes. Et juste une chose, il faut se souvenir à ce moment-là, parce qu'il est emblématique, que vous avez un ministre de l'Intérieur qui prend la parole pour dire « De toute façon, ces gens, ce mouvement, c'est la peste brune. » La peste brune des gens qui veulent vivre de leur travail. Eh bien, ce ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, on le retrouve quelques années plus tard, donc l'an dernier, comme conseiller de Shein, c'est-à-dire une entreprise chinoise qui est en train de détruire l'industrie et le commerce français en faisant déferler des produits ignobles qui sont fabriqués dans des conditions qui détruisent la planète, qui ne respectent aucun droit social. Eh bien, ce monsieur qui a fait la leçon à des gens qui réclamaient la démocratie et le droit à vivre dignement, ce monsieur-là, ça ne le dérange pas de servir des intérêts étrangers et de détruire l'économie de son pays.
Oui, ou même d'être regazé dans d'autres institutions par-ci, par-là, dès qu'il pouvait...
Oui, bien sûr. Dans la, notamment dans l'administration du port de Marseille.
Exactement.
Bon, alors, on n'a pas eu le temps d'aller au bout de la liberté d'expression, mais on voit bien qu'en tout cas, c'est un sujet passionnant parce qu'il touche l'intégralité de la vie politique. Merci pour l'audace. Donc, la liberté d'expression, qui censure qui, c'est à la fois philosophique, mais aussi avec le grand article d'Epelboin, parfaitement documenté sur la manière dont la France puis l'Union Européenne veulent nous empêcher justement de parler, la manière dont on dépend de la technostructure américaine. Merci beaucoup Natacha Polony d'être venue défendre l'audace
c'est
ce
moi
matin
qui vous remercie.
Sur Radio Courtoisie et à bientôt j'espère.
À bientôt, au revoir.
Bon. Oui, et au revoir Xavier Vandelire, merci, heureusement que Arnaud est là. Au revoir Xavier, merci d'être venu vous aussi défendre la liberté d'expression.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout à l'heure, nous allons recevoir Amélie Chély pour parler de l'Iran. Et bien sûr, il va y avoir toutes les chroniques, dont celle de Pascal Pointu. Mais tout de suite, un petit rappel de l'actualité.
Ce dimanche auront lieu les élections municipales dans toute la France. Tous les citoyens français sont donc appelés à se rendre aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux et leurs maires. Le camp national vise de son côté à se faire réélire au premier tour dans les villes qu'il a eues entre les mains comme Hénin, Beaumont, Beaucaire ou Orange. Et puis, côté de l'Iran, c'est au Liban, le bilan des frappes israéliennes est de plus en plus lourd. Plus de 800 000 déplacés, soit près de 15% de la population et plus de 650 morts. Le pays semble bien parti pour une nouvelle période de forte instabilité et d'occupation israélienne. Et puis enfin, hier, la justice européenne imposait aux pays de l'UE de fournir à leurs citoyens des papiers selon le genre vécu. Pour faire simple, tout le monde est obligé de céder au délire progressiste, sinon pas de subvention. Et enfin, je rappelle que en ce vendredi 13 mars, nous célébrons Saint-Rodrigue, le bienheureux Agnello et Saint-Salomon de Cordoue.
Merci Alexandre de Gazin.
De rien.
Ligne droite. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et nous allons débattre de l'Iran, de la guerre. En fait, qu'en pensent les Iraniens eux-mêmes? Et pour ça, nous recevons avec plaisir Amélie Chély, sociologue spécialisée dans l'Iran les idéologies islamistes, iranologue en fait, dont le dernier ouvrage, Paris 13 novembre 2045, est paru l'année dernière. Bonjour Amélie Chély.
Bonjour.
Alors, on parle beaucoup évidemment du détroit d'Ormuz qui est miné, de la manière dont ça influe sur le cours du pétrole, ça influe aussi sur la manière dont les engrais peuvent être amenés en France, apportés en France ou pas. On voit bien qu'il y a des conséquences nationales. On parle évidemment de l'influence de l'Amérique et d'Israël. Au bout du compte, on entend assez peu parler de ce que vivent les Iraniens eux-mêmes, alors que c'est quand même la question principale, évidemment la question des Libanais aussi, mais avec vous, parlons d'Iran. Comment les Iraniens perçoivent-ils cette guerre ?
Alors, si on reste sur quelque chose de très concret, l'observation des rues, on voit que effectivement, on ne sort plus en journée, tout simplement parce qu'on redoute les bombardements, également aussi parce que la République islamique assez régulièrement lance des appels pour demander à la population de rester confinée quand on pressent des frappes. Et en revanche, la nuit, eh bien, vous avez une démultiplication des brigades, des patrouilles, de façon assez diversifiée, c'est-à-dire que certaines brigades peuvent être du Nirouyen Tezami, c'est-à-dire de la police, d'autres des gardiens de la Révolution ou Basij. Et ça, c'est pour éviter qu'il y ait à gérer à la fois une attaque extérieure et une attaque intérieure, étant donné qu'il faut bien se réunir pour pouvoir s'organiser en manifestation. Donc, pour éviter que le scénario cauchemar de la République islamique ait lieu, c'est-à-dire un soulèvement alors qu'il y a à gérer une attaque extérieure, eh bien, on observe cela. Par ailleurs, je crois qu'une grande partie des Iraniens, et quelle que soit leur position vis-à-vis de la République islamique, étant donné qu'elles ne sont pas binaires du tout, je crois qu'on l'a déjà dit plusieurs fois sur votre plateau, eh bien on fait un petit peu le deuil de la possibilité d'une chute du régime liée aux attaques, parce qu'on se rend compte de l'extrême résilience du système, dont on pourra parler un petit peu tout à l'heure si vous le souhaitez, c'est-à-dire la structure du système, comment est-ce qu'elle est faite et comment est-ce qu'elle parvient à résister malgré autant de têtes coupées.
Alors, vous nous avez parlé à l'instant de ceux qui veulent s'organiser pour manifester. Donc, on a parfois des images où on voit la foule qui pleure Khamenei, père, la foule qui est exaltée à l'idée que Khamenei fils prenne sa succession. Mais il y a toujours une opposition démocratique iranienne. Les gens, au moment de cette guerre israélo-américaine contre l'Iran, continue d'espérer, en fait, de pouvoir retrouver la démocratie et de pouvoir faire changer la nature du régime.
Oui, tout à fait. Mais en fait, ce sont toujours à peu près les mêmes pourcentages de population que vous voyez sortir en défense au régime et surtout en exaltant l'arrivée d'un nouveau guide. On a toujours entre 15 et 20% d'une base de population très pro-régime. Cette base de population, donc évidemment, est absolument contre cette guerre et pour un maintien féroce de la République islamique et le fait qu'il y ait une continuité entre Mojtaba, le fils, et Ali Khamenei, le père, eh bien, un peu contre toute attente, ça ne pose pas véritablement de problème. On sait que pendant très longtemps, quand on posait la question à Ali Khamenei de son vivant, de sa succession, le mot de Mojtaba ne revenait pas de sa bouche à lui. C'était plutôt les commentateurs ou les personnes les plus en connaissance des rouages du pouvoir qui parlaient de ce fils, tandis que Ali Khamenei, lui, ne voulait pas en entendre parler parce que ça aurait été un manque de rupture avec l'ancien régime qui avait un pouvoir d'héritage filial. Et donc ça n'était pas envisageable. Il fallait rompre à tout prix, y compris dans les modes opératoires de transmission du pouvoir. Or là, on se rend compte que parmi cette population qui soutient la République islamique d'Iran, cela ne semble pas faire de véritables problèmes. Peut-être aussi parce que, et ça j'ai pu en parler avec certains d'entre eux, peut-être aussi parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une paranoïa aiguë à l'intérieur du système. On se rend bien compte que les choses n'auraient pas pu se dérouler de la façon dont elles se déroulaient s'il n'y avait pas d'espionnage ou de double casquette ou donc de personnes qui trahissent la République islamique à l'intérieur même de ses rouages. Et avoir une perpétuation du pouvoir à l'intérieur de la famille permettait finalement d'éviter le plus possible de tomber sur la mauvaise personne.
Alors, quand on lit le message du nouveau guide de la révolution islamique, on se rend compte qu'il est, par exemple, important selon lui de préserver l'unité entre toutes les composantes du peuple, objectif qui passe par la capacité de passer outre les points de divergence. Je cite un communiqué de presse de l'ambassade d'Iran. Comment le guide suprême peut-il reconnaître qu'il y a des points de divergence ?
Alors ça, c'est une reconnaissance que dont la République islamique s'est fait l'aveu à partir de 2009. C'est-à-dire qu'on pressentait, puisque vous avez toujours eu des mouvements protestataires entre 1989, donc la fin de la guerre et la mort du premier guide suprême, Ruhollah Khomeini, et 1989, vous avez commencé à avoir des élans protestataires, mais le système fermait un petit peu les yeux là-dessus, en ne pensant pas nécessaire d'avoir des cabinets et des laboratoires d'élaboration de contre-discours. C'est vraiment à partir de 2009 qu'on a mis le budget, si vous voulez, sur la question du contre-discours, mais aussi sur l'aide à la visibilisation de ceux qui, parmi la population, défendaient le régime. Donc c'est quelque chose qui est connu depuis 2009, qui est accepté par le régime et qui n'est pas forcément tant étouffé que cela. Là où on va un peu plus étouffer, c'est sur les questions de nombre, de statistiques, de diversification de l'opposition, etc., etc.
Alors, en même temps, toujours, je continue à citer la parole du guide. Alors, non pas parce que j'adhère, évidemment, à la parole du guide de la révolution islamique, mais parce que, somme toute, on entend assez peu ce qu'il dit. Le guide exprime sa gratitude sincère aux combattants, etc. Et il indique que la volonté des masses est la poursuite d'une défense efficace et dissuasive. Effectivement, qu'on soit soutien de la République islamique ou non, pour le moment, le peuple iranien vit dans l'angoisse des frappes israélo-américaines. Et donc, le sentiment de la population, c'est que cette guerre est juste, que cette guerre est injuste, que cette guerre va peut-être les libérer.
On reste rigoureusement dans la même proportion que celle qu'on observe pendant les manifestations. Comme on l'avait déjà dit sur votre antenne il y a bien longtemps, vous avez deux extrémités de spectre, à peu près 15-20% de pro-régime, à peu près 15-20% d'anti-régime qui seraient proches d'une posture néoconservatrice et qui accepteraient que des puissances étrangères renversent le régime, voire restent de façon plus pérenne sur place en attendant, lors d'une transition, en attendant la reconstitution d'un nouveau régime. Et puis au milieu, vous avez donc une écrasante majorité de la population qui n'aime pas la République islamique, mais qui n'est pas non plus pour être sauvée par des entités étrangères. Et donc là, vous avez rigoureusement la même chose qui s'observe, c'est-à-dire que vous avez 15-20% qui détestent cette guerre, qui la trouvent profondément injuste. Vous avez donc les 15-20% de l'autre extrémité du spectre qui la trouvent juste. Et au milieu, vous avez ceux qui, au départ, pouvaient penser qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et effectivement, même si on ne parle pas de cette guerre, il n'y a pas de solution stricto sensu en interne. Étant donné que la République islamique est un système qui se dote de deux armées parallèles, qui couvrent tous les secteurs classiques et traditionnels, c'est-à-dire armée de terre, de mer, de l'air, mais aussi la surveillance, le service de renseignement, etc., etc., cela rendait absolument impossible la possibilité de voir une chute du régime causée par des forces vives à l'intérieur. Même si une armée se mettait du côté des manifestants, l'autre était en capacité de neutraliser le mouvement. Hein. D'autant qu'en plus, il faut savoir que l'Iran est certainement le pays qui a le plus d'entités de services de renseignement. Elles sont au nombre de 16, ça n'est pas rien. Vous avez des entités de renseignement qui même vont espionner le renseignement lui-même. Donc c'est extrêmement bien huilé, malheureusement. Et donc à ce moment-là, vous avez une partie de la population qui disait il n'y avait que l'extérieur qui pouvait fonctionner. Sauf que là, on se rend compte d'une nouvelle chose, c'est que le bombardement stricto sensu, ça ne suffit pas. Il y a une extrême résilience du système et que éventuellement, là, pour ceux qui seraient encore un tout petit peu optimistes, il y a la possibilité, l'idée qui commence à se nicher de plus en plus dans ces esprits-là, qui ne sont pas majoritaires, que seules des troupes au sol pourraient finalement avoir une incidence et encore sans certitude sur la chute du régime.
La résilience du système, c'est évidemment ma question suivante. Il y a eu cette guerre de 12 jours l'année dernière. Là, on a dépassé les 12 jours et on a le sentiment que soit Israël, soit les États-Unis n'avaient pas mesuré cette résilience et croyaient qu'en assassinant le guide suprême Khamenei, il allait réussir à décapiter la société qui, comme un poulet sans tête, serait incapable de s'organiser. Pas du tout. En fait, l'Iran existe toujours et même est capable de porter des coups, au moins au discours de triomphateur de Donald Trump.
Oui, vous avez en fait en Iran un système qui pourrait à première vue paraître pyramidal, mais ça n'est pas forcément le cas. Vous avez constitutionnellement une tête, un sommet, c'est le guide suprême, mais juste en dessous, vous n'avez pas quelque chose de très régulier jusqu'à la base. Vous avez par exemple une myriade d'entités qui ont toute une importance tout à fait comparable entre elles, 5-6 par exemple, juste après le guide. Si vous en invalidez 2 ou 3, vous avez toujours une possibilité de fonctionnement des autres qui ne mettent absolument pas un terme et qui ne paralysent absolument pas l'intégralité du système. D'autant plus que vous avez aussi un geyser de stratèges et d'ingénieurs et de membres de la classe politique qui sont de fins tacticiens, qui sont là à attendre qu'on puisse finalement les mettre à la place des têtes qui sont tombées. Donc on en a encore pour un grand bout de temps, un long bout de temps. Et par ailleurs, eh bien, si on prend ce que disent les catégories des sciences politiques, vous avez toujours dans un pays 3 grands pouvoirs. trois grands pouvoirs. Le premier, c'est la capacité économique. Le deuxième, c'est la capacité à lever des armées. Et le troisième, c'est la capacité à créer des tendances. Et donc forcément, les puissances étrangères qui voulaient porter atteinte à la République islamique s'en sont pris aux deux premières en sous-estimant certainement le pouvoir de la troisième, c'est-à-dire on porte atteinte à la capacité à lever des troupes en s'en prenant à l'axe de la résistance, l'axe de la Mourawama, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas, vous avez aussi les Houthis, on y touche moins, vous avez aussi le Hashtag Shabi, ça a pu être touché mais pas forcément de façon létale, vous avez eu l'effondrement syrien, donc on s'est dit voilà, on va affaiblir la République islamique d'Iran de cette façon-là. Ensuite la question économique, ça on s'en rend bien compte, hein, le pays est l'un des pays les plus sanctionnés au monde actuellement, mais cela ne vient toujours pas à terme de la République islamique. Et puis vous avez la capacité à créer des tendances, et on en fait tristement les frais depuis quelques jours, un peu plus aux États-Unis qu'en France, mais vous voyez à quel point finalement ces éléments de discours anti-alignement, anti-sioniste, pro-David contre Goliath, étant entendu que David ici c'est la République islamique qui est très très faible par rapport à la puissance létale des Américains et des Israéliens, et ça fonctionne. On s'est rendu compte par exemple encore hier que vous avez un très grand nombre d'attaques où vous avez des éléments de discours favorables à la République islamique qui les motivent et qui les causent.
Alors, et c'est cette tendance de David d'être pour David contre Goliath et pour le petit pousset contre l'ogre, etc. On, d'une certaine manière, on la comprend, mais il y a une espèce de dissonance, c'est-à-dire on finit par expliquer que le droit international, l'arrogance de Trump et tout un tas d'autres raisons devraient pousser en fait à soutenir un régime dictatorial qui fait le malheur de son peuple depuis quasiment 50 ans. Est-ce que cette tendance est vraiment impulsée par l'Iran elle-même, ou est-ce que c'est le résultat d'une détestation, somme toute assez commune, des États-Unis depuis quelque temps, et du soutien de la gauche à tout ce qui est islamisme comme étant une espèce de nouveau prolétariat?
Mais c'est les deux ensemble. C'est les deux ensemble. Par exemple, les gardiens de la Révolution, ça c'est juste pour donner un exemple, mais il est assez parlant, les gardiens de la Révolution ont des chaînes de télévision. Ils ont des chaînes de télévision dans toutes les langues pour s'adapter aux intérêts locaux. Ils ont une chaîne de télévision, par exemple, qui s'appelle Espan TV, qui s'adresse à la population sud-américaine. Évidemment, dans cette chaîne de télévision, on ne va pas parler de comment est-ce que je place mes mains pour bien prier. Ça n'intéresse pas les Sud-Américains. En revanche, on va avoir des discours anti-américains pour montrer à quel point il y a une communauté de compagnons d'infortune entre ces pays sous sanctions. Pareil pour la France. Les gardiens de la Révolution ont une chaîne en français et en anglais qui s'appelle Press TV. Le côté anti-américain ne fait pas trop recette, le côté religieux non plus. En revanche, le fait d'appuyer sur le conflit israélo-palestinien, ça marche très bien. Donc on va toujours être dans une adaptation aux intérêts locaux, ce qui va faire qu'on va voir finalement, si on est sensible à ces discours, la République islamique comme le grand sauveur à l'échelle internationale de toutes les causes perdues, de tout ce qu'on appelle la mazloumiyat en persan, donc en arabe, mais ça se retrouve en persan, c'est-à-dire la communauté des opprimés. Et donc la République islamique, ça fonctionne très bien aussi, parce que ça c'est une notion qui est transnationale et internationale. L'idée qu'il y a des opprimés et qu'il faut les aider, ça fonctionne très bien auprès de toutes les populations dès lors qu'elles s'y reconnaissent dans cette cause.
Et est-ce qu'on peut anticiper, malgré tout, une fin du conflit, moins par la volonté populaire que par la lassitude des combattants? Donald Trump a l'air de passer par la Russie pour négocier avec l'Iran. Israël a l'air de passer par la Chine pour négocier avec l'Iran. Où est-ce qu'on en est, en fait, de ces tentatives de mettre fin au conflit, de ces possibles tentatives de mettre fin au conflit?
L'Iran fait comme la République islamique a toujours fait, c'est-à-dire qu'on compte sur le caractère électoraliste et démocratique des pays qui attaquent. En Iran, on s'en contrefiche un petit peu de la pensée des électeurs. On sait très bien que c'est plus véritablement ça qui va avoir un impact sur la pérennité de la République islamique. Or, Les membres de la classe politique iranienne, et militaire d'ailleurs, savent très bien que cela compte pour les États-Unis. Et ils comptent d'ailleurs sur le fait que ce soit les États-Unis qui décrochent avant Israël, parce qu'on sait très bien qu'en Israël, vous avez environ 80% de la population qui soutient cette guerre. Le pourcentage de la population israélienne qui défend cette guerre est beaucoup, beaucoup plus important que pour ce qui concernait le conflit à Gaza. Parce qu'il y a toujours eu ce discours, à tort ou à raison, ça je ne m'implique pas, de voir l'Iran comme la source de danger prioritaire, pour ce qui était tout à fait aidé par la République islamique d'Iran, qui, de façon extrêmement régulière, organise des célébrations qui disent Marg bar Israël, mort à Israël. On compte beaucoup là-dessus. Et il a fort à croire, d'ailleurs, que les agendas locaux américains, c'est-à-dire le mid-term ou le fait qu'il y ait une base électorale qui s'oppose à cette guerre et qui commence à redouter des incidences économiques de cette guerre au sein du pays, il y a fort à croire que les États-Unis se dégagent du conflit avant Israël. Et cela, les Iraniens comptent beaucoup dessus.
Alors, les Iraniens comptent dessus. On parle là, bien sûr, de ceux qui sont en train de diriger l'Iran. Les autres Iraniens, pour revenir au début de cette conversation, les autres Iraniens attendent évidemment la fin de la guerre. Dans l'état actuel du moral de la population, ils attendent la fin de la guerre. Vous nous avez toujours dit à chaque fois que, voilà, qu'il y avait 20% de soutien du régime, 20% d'opposants farouches au régime. Il y a 60% au milieu de gens qui subissent à la fois le régime en temps de paix et le régime en temps de guerre et la guerre elle-même. Et la lassitude est présente ou malgré tout, comme le disent certains, les énergies nationales ont été galvanisées et il y a un bloc où malgré tout, on attend moins la fin de la guerre que la défaite au moins symbolique des États-Unis.
Je crois que la lassitude est à la mesure de l'enthousiasme qu'on avait observé dans les élans protestataires à partir du 28 décembre dernier. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un espoir très très fort, c'est-à-dire qu'une grande partie des Iraniens pensaient que ça allait vraiment être la fin. Surtout quand le guide est mort, ensuite Ahmadinejad, ça a été une vraie vraie joie pour beaucoup d'Iraniens de voir l'ancien président conservateur et au discours totalement délirant et en marge du langage diplomatique traditionnel mourir. Donc il y avait beaucoup d'espoirs qui ont été nourris, et là de voir une chose à côté de laquelle peut-être on passe en Occident arriver, ça les... On rentre dans une lassitude qui fait qu'on pense plutôt au départ qu'au fait de renchaîner, du moins dans l'immédiat, dans des élans protestataires. Cette chose-là qu'on a peut-être du mal à voir, c'est que en Iran, vous avez aussi des discours. Vous en avez beaucoup moins que dans des pays où le pluralisme a cours, mais vous avez aussi des discours, et notamment vous avez une sorte de dualité entre le discours conservateur et le discours modéré. Ça ne change rien à la République islamique, dans les deux cas c'est la République islamique, mais ça peut avoir un impact sur le caractère complexé ou décomplexé des discours. Et pendant très longtemps, par exemple sous Hassan Rouhani, l'ancien président, celui qui était là avant Pezeshkian et avant Ebrahim Raisi qui est mort en hélicoptère, eh bien vous aviez finalement une marginalisation, mais un retrait, une mise en retrait des discours conservateurs. C'est-à-dire que même dans certains journaux, on pouvait voir un petit ton moqueur à l'égard de ceux qui pouvaient continuer d'avoir une rhétorique un peu archaïque, de voir toujours les mêmes grands satans, les mêmes petits satans, etc. etc. Et même intellectuellement, même si ça n'est que du ressort de la mentalité, ça disait quelque chose tout de même. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, évidemment que c'est le discours conservateur qui est en haut de l'affiche. Évidemment que c'est celui-là qui est devenu le nouveau discours majoritaire. La classe politique se sent tout à fait légitime à l'employer et à le réemployer, puisque les choses leur ont donné raison. Quelque part, enfin, c'est ainsi qu'ils le présentent dans leur discours. Ce sont les puissances étrangères qui ont attaqué, et donc ça leur donne raison de leur point de vue. Et cela, les Iraniens se disent que non seulement il faudrait tout recommencer en mettant leur vie en danger, en sortant dans la rue, en se reconfrontant à la répression, en se reconfrontant aussi aux arrestations dont on ne sait jamais de où elles aboutissent, Mais encore, il va falloir, et ça c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus évanescent et impalpable, retravailler sur les discours. Et là, on peut comprendre qu'une grande partie de la population désespère et est beaucoup plus ouverte à faire des efforts pour envisager un départ plutôt que pour rester et continuer de protester.
Merci beaucoup Amélie Chély pour ces nouvelles passionnante sur l'Iran et la mentalité iranienne. Et je ne peux pas dire j'espère à bientôt sur Radio Courtoisie parce que ça signifie que le conflit dure, mais à bientôt quand même.
Ligne droite.
Bonjour Pascal Pointu.
Oui, bonjour.
Alors, je crois qu'aujourd'hui, vous allez nous parler des écologistes et de la manière admirable dont ils entendent gérer le pays et l'agriculture.
Non, pas tout à fait.
Ah,
les consignes sont mal passées.
J'avais entendu que le sujet, c'était les clowns et les écologistes. Je me suis dit, voilà, mais non, pas du tout.
Non, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'écologistes. Oui, effectivement, c'est les clowns, mais c'est aussi les clowns et le nucléaire.
Ah, pardon.
Donc, je vais vous parler historiquement un peu, parce que quand j'écoute M. Macron, notre président de la République, nous faire un récit littéral sur tout le bien qu'il pense du nucléaire, on va quand même redescendre sur Terre et puis on va surtout nommer les errements de M. Macron et de ses prédécesseurs. Donc, on va commencer par le début, puisqu'en 1974, Pierre Messmer, premier ministre de Georges Pompidou, mettait en place le nucléaire civil en France en ordonnant le plan de construction de notre parc nucléaire actuel. Cette décision si importante faisait suite à la réponse du premier krach pétrolier de 1973, donc on est exactement dans la même situation qu'aujourd'hui. Nos 57 réacteurs nucléaires sont la finalité de cette ligne politique énergétique adossée à notre production hydroélectrique avec nos barrages. Donc, ensuite, après Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, les deux tiers de nos centrales actuelles ont été construites sous les mandats de François Mitterrand. Donc, ça m'interpelle à quelque part, parce que quand j'entends la gauche être anti-nucléaire, alors que François Mitterrand fut le créateur de pratiquement les deux tiers, plus du deux tiers de nos centrales. Donc, ce qui nous a permis d'être souverains en matière de production. Mais à partir de 1997, vinrent les premiers ennemis de la France. D'abord, Madame Voynet, ministre d'écologie sous Jospin jusqu'en 2001, et qui, au lieu d'être députée aujourd'hui, devrait être incarcéré dans une prison pour haute trahison. En effet, mandaté par Jospin pour défendre le nucléaire français à Bruxelles après avoir fait fermer Superphénix en 1998, ce réacteur de nouvelle génération qui nous donnait 30 ans d'avance technologique et qui a fermé sous ses ordres et sous son idéologie, sans aucun risque pour les Français, bien entendu. En 99, elle a tenté avec le ministre anglais de l'écologie, de reprendre le contre-pied du Premier ministre français qui lui demandait de porter le nucléaire français à Bruxelles et d'obtenir ainsi des subventions pour maintenir la filière nucléaire. Donc, elle fit tout le contraire, bien entendu. Elle a manigancé avec le ministre anglais de l'écologie pour faire croire que sa position isolée en Europe allait faire payer un lourd tribut à la France. Et l'anglais a fait exactement la même chose. Et le poteau rose a été évité au dernier moment et dévoilé au dernier moment. Sans cela, nous n'aurions plus de nucléaire à cause de Madame Voynet. Donc voilà, Madame Voynet, ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, quand je la vois qu'elle a été nommée dans un obscur bureau pour l'autorité nucléaire, enfin un truc, une usine à gaz quoi, hein, sur le nucléaire, où on va payer pour qu'elle puisse siéger, alors qu'elle a tout fait pour casser le nucléaire français, et elle s'en est vantée. Donc ensuite, la droite quand même a toujours soutenu le nucléaire, que ça soit sous Jacques Chirac ou sous Nicolas Sarkozy. Il y a eu des grands efforts qui ont été faits, et on ne peut rien reprocher à la droite à ce moment-là sur le nucléaire. En 2012 arrive François Hollande. Hein. Alors donc les promesses de campagne de François Hollande, qui sait que pour passer devant Nicolas Sarkozy, il a besoin d'aller ratisser des voix chez les écologistes. Donc là, les écologistes lui disent « on vote pour toi, mais tu fermes Fessenheim ». Alors Fessenheim, il faut savoir que c'était la plus grosse centrale nucléaire française, la plus avancée technologiquement, et qui avait reçu entre 2007 et 2012, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, un investissement de 600 millions d'euros. Et le discours de Nicolas Sarkozy à Fessenheim le 9 février 2012 en est la preuve, comme quoi la droite croyait et croit toujours au nucléaire. Mais François Hollande, comme d'habitude, a été élu et ensuite il a nommé au poste de ministre de l'écologie que des anti-nucléaires, Madame Delphine Bateau, dont sa spécialité était vice-présidente de SOS Racisme, et surtout la succulente, alors là quand je l'écoute aujourd'hui, la succulente Ségolène Royal, la papesse du Chabichou, qui aujourd'hui attaque Macron sur le nucléaire et son volte-face, et qui a fait voter la fermeture de Fessenheim, la fermeture de la moitié de nos réacteurs nucléaires. Mais quand il faut parler boussole politique à Ségolène Royal, c'est comme si vous mettiez José Bové, président du conseil d'administration de McDonald's. Donc en 2007, arrive Macron, là aussi soutenu. Alors là, ça me fait un peu rire, parce que je vois défiler un certain Alexandre Jardin devant toutes les radios et les télés. C'est Alexandre Jardin qui buvait chaque mot du futur président et qui applaudissait à tout rompre au premier rang des meetings, comme Madame Sophie de Menton aussi, la présidente d'éthique. Et alors que le président reprend les thèmes de Ségolène Royal sur le volet nucléaire et annonce lui aussi la fermeture de Fessenheim qui sera effective sous Elisabeth Borne et qui s'en défendait elle-même du haut du perchoir de l'Assemblée nationale en étant première ministre. Alors, élu, Macron nomme aussitôt un Nicolas Hulot, à peine revenu de sa Bretagne et de son bateau, consommant 60 litres par heure d'essence.
Pardonnez-moi, Pascal, mais il nous reste en théorie même pas 30 secondes. Donc...
Je vais conclure très vite. Donc, on fait le tour de Borne, de Pompili, de Montchalin, tout ça, ministre de l'écologie sous Macron. Mais il faut bien se rappeler que Macron avait cédé les turbines à Rabel à General Electric pour les faire racheter par la France 2-3 ans plus tard. Et il faut savoir aussi que Macron sait la fermeture de Fessenheim, le désengagement de l'État pour soutenir la maintenance de notre parc nucléaire, notamment en 2022, et c'est surtout l'abandon du projet Astrid, le nucléaire de la quatrième génération. Alors quand aujourd'hui Macron vante notre nucléaire, c'est comme si vous demandiez à un végan de faire la promotion de la viande.
Merci beaucoup Pascal Pointu, et à la semaine prochaine.